Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité. À l'occasion de la parution de son 600e numéro et des 70 ans de la revue, la RFC publie une édition spéciale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la normalisation comptable et fiscale à la française, en nous inspirant de l'article de Béatrice Touchelet, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lille. Alors, on a cette image de la France très administrative, le pays des normes, quoi. Et pourtant, c'est assez étonnant, elle a mis un temps fou à imposer une vraie réglementation comptable, bien plus que d'autres pays européens.
Oui, c'est ça le paradoxe central. Comment expliquer ce retard, ce décalage?
C'est ce qu'on va essayer de comprendre, et pour ça, il faut remonter assez loin. Au début, les obligations comptables étaient quasi inexistantes. L'ordonnance Colbert de 1673, même le Code de commerce de 1808, très peu de choses là-dessus.
Très peu prescriptif, oui. Et même la loi de 1867 sur les sociétés anonymes, ça restait assez limité.
Et la raison principale, c'était le système fiscal de l'époque.
Exactement. Le système reposait sur ce qu'on appelait les quatre vieilles, des impôts basés sur des signes extérieurs de richesse. Les terres, les meubles, la patente, les portes et fenêtres.
Ah oui, les fameuses portes et fenêtres. Pas besoin de bilan détaillé pour ça, effectivement.
Voilà. Donc la compta, c'était plutôt une affaire interne. Pour la gestion, pour demander un crédit, mais pas une obligation générale dictée par le fisc.
Donc ça dure un bon moment. Mais quand est-ce que ça commence à changer?
Ça change quand l'État a besoin de plus d'argent, et surtout quand l'idée d'un impôt plus juste, basé sur le revenu réel, commence à faire son chemin, fin 19e, début 20e.
L'impôt sur le revenu?
C'est ça. Une grande réforme est prête dès 1907, mais alors là, opposition énorme. On parle d'inquisition fiscale, surtout au Sénat.
L'intrusion dans les affaires privées.
Tout à fait. Résultat, la loi est votée in extremis en juillet 1914, juste avant la guerre. Et la guerre, évidemment, en retard d'application.
Mais la guerre elle-même va jouer un rôle, non?
Oui, un rôle clé, en fait, avec la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre décidée en 1916. Là, soudainement, il faut pouvoir calculer les bénéfices des entreprises qui s'enrichissent grâce au conflit.
Une sorte d'équité fiscale par rapport aux soldats au front?
C'est l'idée affichée, oui. Sauf que... Comment on calcule ces bénéfices sans règles communes, sans plan comptable?
J'imagine que ça a dû être compliqué.
Compliqué, c'est faible. C'était le chaos. Les archives le montrent bien. Beaucoup de petits patrons, d'artisans ne savaient tout simplement pas comment tenir des comptes. Zéro base comptable.
Donc chacun faisait un peu?
Chacun faisait un peu à sa sauce, quoi. Avec des calculs parfois, disons, créatifs. Et souvent, il faut le dire, une vraie mauvaise volonté face à ce fisc qui devenait soudain très curieux.
Et comment l'administration fiscale a réagi?
Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Ce sont les contrôleurs des impôts eux-mêmes, sur le terrain, qui ont commencé à définir des règles, en interprétant les textes, en redressant. Ils sont devenus, un peu malgré eux, les premiers agents de la normalisation comptable.
Une normalisation par la pratique, en quelque sorte?
Oui, poussée par la nécessité fiscale. Et ça a eu deux conséquences majeures. D'abord, les entreprises ont commencé à faire appel à des professionnels, les premiers comptables, pour les aider avec les déclarations.
Et sans doute pour trouver des failles.
Évidemment. L'optimisation fiscale, ça ne date pas d'hier. Et puis, deuxième conséquence, pour toutes les petites entreprises qui n'arrivaient vraiment pas à suivre, l'administration a dû trouver une solution, le forfait.
L'imposition forfaitaire, plus simple mais moins juste finalement.
C'était un palliatif, oui. Malgré tout ça, et malgré les appels à réformer des syndicats, des socialistes qui dénonçaient l'inefficacité et la fraude, la volonté politique d'imposer une norme comptable claire, elle reste très faible.
Il faut attendre quand même les années 30 pour voir bouger un peu les choses, hein.
Très timidement. On a un brevet d'expert comptable en 1927, mais bon, ça n'attire pas grand monde au début. Un service de vérification comptable en 33 pour les grosses boîtes, quelques exigences pour les commissaires aux comptes en 35... Mais c'est lent.
Pourquoi cette lenteur, alors?
Plusieurs raisons.
Oui.
On peut citer une culture du secret des affaires très forte en France, une profession comptable qui était encore assez peu organisée, très hétérogène, et puis, surtout, un manque de vision politique, semble-t-il. Pas de réelle volonté d'imposer cette uniformité.
Et c'est un contexte historique très particulier qui va débloquer la situation.
Paradoxalement, oui. C'est le régime de Vichy. Pour des raisons de contrôle économique accru, de gestion de la pénurie et sans doute aussi de collaboration économique, le pouvoir met en place des outils.
C'est là qu'est créé l'Ordre des experts comptables.
Exactement, en 1942. Et surtout, on lance enfin une commission pour créer un plan comptable uniforme.
Et à la Libération, on garde ces outils.
Oui, on les adapte au cadre démocratique, bien sûr. Le plan comptable général est publié, l'ordre est maintenu, mais démocratisé. Et là, le besoin de comptables explose littéralement.
Pourquoi cette explosion ?
Il y a la reconstruction, les nationalisations, mais aussi l'épuration économique, où il faut vérifier les comptes des entreprises suspectes. Et puis, les contrôles fiscaux reprennent de plus belle après 1952. La compta devient un vrai métier d'avenir, un ascenseur social.
Pourtant, ce fameux plan comptable général, il a eu du mal à s'imposer, même après la guerre.
On lit que la loi a dû rappeler son obligation en 1959 et encore en 1965.
C'est la dernière étape de ce long paradoxe. La résistance a été très forte, surtout chez les PME.
Toujours la peur du fisc. Principalement, oui. Beaucoup y voyaient surtout un outil de contrôle pour l'État, une menace pour leurs affaires. Le plan comptable comme outil de gestion, ça viendra plus tard. Il a fallu attendre en gros les années 70 pour que son usage devienne vraiment la norme.
Et une fois la norme acceptée, elle devient aussi un outil pour...
Pour l'optimisation, bien sûr, une fois qu'on connaît bien les règles du jeu.
Donc, pour résumer cette histoire un peu folle, on part d'une France très en retard sur la norme comptable, malgré sa réputation, et c'est l'évolution de la fiscalité, le passage à l'impôt sur le revenu déclaré, qui rend cette normalisation indispensable. Mais un chemin très long, marqué par les résistances, la lenteur politique.
C'est tout à fait ça. Une histoire vraiment liée à cet attachement au secret, à la difficulté de structurer une profession et à un État qui, pendant longtemps, a voulu un impôt moderne sans vraiment se donner tous les moyens de l'appliquer correctement et équitablement.
Une leçon d'histoire intéressante.
Oui, et on peut même se demander si cette tension qu'on a décrite entre le besoin de transparence de l'État, la résistance des entreprises au contrôle et ce double visage de la norme comptable comme outil de contrôle mais aussi d'optimisation, si cette tension ne trouve pas encore des échos très forts aujourd'hui.
Dans quel domaine, par exemple ?
Pensez au débat sur la fiscalité des multinationales, la régulation financière après les crises, ou même la lutte contre l'évasion fiscale. C'est un peu toujours la même histoire qui se rejoue, non ? Entre transparence, contrôle et optimisation.
Une réflexion finale intéressante. La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.